podcast@buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Marc.
Vous publiez chez Naïve un album composé de deux concertos majeurs, on pourrait dire, pour votre arme de prédilection, le violon, qui sont le concerto de Korngold, 1945, et celui de Tchaïkovski, qui est un peu sorte d'épreuve du feu. Vous nous direz d'ailleurs si c'est un peu une épreuve du feu ou pas pour tout violoniste qui se respecte. Cet album sort chez Naïve. Vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a tant qu'à faire l'orchestre qui va avec, c'est-à-dire l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, et qui est dirigé par un peu un confrère, parce qu'il était violoniste aussi, là il n'a pas le violon à la main. Il est à la baguette, c'est Jean-Jacques Kantoroff. Vous, le cinéphile, beaucoup de gens sont cinéphiles, mais vous l'avez prouvé aussi en musique. Korngold, c'est un peu un nom, justement, à ce niveau-là, c'est une bonne passerelle, puisque compositeur, mais qui a énormément œuvré pour Hollywood.
Bah, je pense qu'il est devenu compositeur de musique de film malgré lui, presque. C'était un véritable génie de la musique, un enfant prodige, comme vous le savez certainement. Il y a eu Mendelssohn, il y a eu Mozart, et à ce niveau de précocité et de maturité dans l'expression à un très jeune âge, il est vraiment tout à fait exceptionnel. Il a dû partir parce qu'il a été chassé de son pays avec l'avènement du nazisme. Il est parti aux États-Unis et il a composé de la musique de film. Et quelque part, on a l'impression que c'est lui qui personnifie ce qu'on appelle la musique de film dans l'imaginaire. Et c'est très amusant parce que j'ai un ami qui a écouté ce disque il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, avec sa fille qui a 8 ans, qui fait un peu de violon, et elle connaissait rien de l'histoire de Korngold. Et au bout de 10 minutes, elle lui a dit, mais c'est incroyable, on a l'impression qu'on est dans un film. et c'est vrai qu'il y a quelque chose un souffle, une flamboyance qui évoque la musique de film, enfin tout ce qu'on peut imaginer de grands sentiments et de grandes aspirations, et ça se reflète dans sa musique.
Est-ce que vous, justement, vous visualisez énormément, au-delà de cet aspect-là, votre musique en général ?
Oui, enfin, la musique, oui. Je vois beaucoup d'images dans la musique, j'imagine des histoires. Oui, la musique, pour moi, me raconte des histoires.
Cette œuvre, si on parle d'abord du concerto de Korngold, qui a été créé en plus par... Un maître, on pourrait dire, du violon, Eiffet, ouais. Voilà, cette œuvre, vous avez commencé à la jouer quand d'ailleurs, première fois?
Ah, je l'ai joué une fois, il y a, je sais pas, 10 ans ou 15 ans, et puis je ne l'ai jamais rejoué, et puis j'ai eu...
Quelle valeur vous lui donniez à titre personnel? C'était un concerto qui, à l'époque, quand vous avez commencé à vous y intéresser...
Alors moi je me disais, ça fait partie des œuvres intouchables. Pourquoi ? Parce que Yashar Heifetz, dont on parlait, l'a enregistré, et c'est une version absolument démente. Et mais c'est quelque chose que j'ai pu me dire souvent dans ma vie de musicien, à quoi bon ? Sans jouer l'Aquabonis de Serge Gainsbourg, c'est vrai que souvent je me suis retrouvé confronté à me dire à quoi bon faire ceci ou cela, et jouer par exemple le concerto de Korngold quand il y a une version... je n'aime pas le mot de définitif pour qualifier une version d'une œuvre, mais c'est comme ça que je la voyais, la version de Yasha Heifetz. Et je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à voir et à dire avec cette musique, et donc on l'a enregistrée. Il se trouve que Jean-Jacques Antheroff a une passion pour ce concert de Korngold, et donc ça s'est fait tout naturellement, voilà.
Ça aide ou pas, le fait que ça soit aussi un violoniste ? Ça a un impact sur un...
Oui, ça aide, ça aide.
Ou au contraire, ça n'aide pas, je ne sais pas.
Non, bah Jean-Jacques, c'est un maître pour tous les violonistes. Tous les violonistes, c'est vraiment un maître du violon. C'est notre Guidon Kremer à nous. Quelqu'un, tous les gens du monde entier, enfin, de jeunes violonistes du monde entier viennent travailler avec lui. C'est quelqu'un qui a une audace, une prise de risque dans sa manière de jouer et une quelque chose de très complet dans sa manière d'envisager la musique. C'est pas pour rien qu'il est chef d'orchestre aussi. Et donc c'est-à-dire que je me sentais en totale confiance, je ne sais pas, mais en tout cas en totale, oui, une forme de confiance par rapport à la vision qu'on avait de cette œuvre et ce qu'on voulait en donner.
Par rapport justement, alors c'est vrai que la question peut s'appliquer finalement à beaucoup d'autres, et on en parlera peut-être après pour le Tchaïkovski, d'avoir justement en tête une version définitive. Vous avez dit, même s'il n'y a pas vraiment de version définitive, quand on attaque soi-même pour l'enregistrer, ce concerto, et donc vous mentionnez la version d'Heifetz, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut finalement désapprendre cette version, se la retirer de son ADN personnel ? Comment on immisce sa voix personnelle avec, comment on arrive à se glisser entre justement ce côté intouchable, et est-ce qu'il faut, il faut oublier ce qu'on a appris ?
En fait, ce qui est très important, c'est de croire en la musique qu'on joue. Et s'il se trouve que c'était vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a rien fait dans cet enregistrement, dans le sens où ça me rappelle une phrase de Pierre Barbizet qui disait « L'inspiration, c'est de faire ce qui est écrit ». Et c'est vrai, j'ai l'impression que on est rentré dans les vibrations que suscite cette musique et qu'elle nous inspire d'une manière assez naturelle. Et que c'est drôle parce que j'ai revu la partition de ce concerto après l'avoir enregistré. Je l'ai écouté une fois en regardant la partition. Et je me suis rendu compte qu'on faisait véritablement tout ce qui était écrit sur la partition. C'est drôle parce qu'il y a quand même un sentiment de liberté et de prise de risque et de qui est là. Mais en fait, tout est écrit et je pense qu'il ne faut pas être trop volontaire dans l'interprétation en général. On peut avoir une idée intellectuelle de la musique, mais c'est très important de garder l'émerveillement et le côté sensuel et le côté presque instinctif d'un ressenti qu'une musique nous inspire. Et en cela, je trouve que cet enregistrement reflète ça, il me plaît beaucoup, voilà, pour ces raisons-là.
Sur le Tchaïkovski, là, justement, alors, la question que je posais un petit peu en début, un peu une sorte d'épreuve du feu, de passage presque obligatoire ou pas, quand là, justement, on est confronté à une œuvre qu'on joue, en plus, je pense que vous la jouez depuis un certain temps, on va dire.
Bah oui.
Voilà. En termes d'enregistrement, il y a une cargaison pentagruélique de versions. Là, c'est la... C'est quoi la difficulté, justement, quand on se retrouve avec cette sorte de sainte écriture du violon et avec tout ce qu'on en a personnellement vécu tout au long de sa carrière?
C'est un peu d'oublier tout ça. Il y a une chose qui m'est revenue aussi il y a peu de temps, c'est cette phrase de mon professeur Michel Auclair qui m'a montré ce concerto de Tchaïkovski d'une manière très impressionnante, parce qu'on a travaillé des mois et des mois dessus. C'était la première fois que je jouais avec un orchestre, et on a beaucoup travaillé sur ce concerto qu'elle a enregistré elle-même deux fois. Et elle me disait toujours, en fait, j'avais eu un enseignement très, c'était un peu Moscou sur scène, quoi. L'enseignement que j'ai eu avec elle, je la voyais trois fois par semaine, et son assistante pareil, donc j'étais un peu, elle voulait faire avec moi ce qu'on fait peut-être au conservatoire de Moscou, dans des endroits où comme ça on rigole pas. Et en tout cas à l'époque certainement, et donc je travaillais énormément, et elle me forçait, elle m'orientait vers le fait d'être très conscient de chaque geste à la fois technique, chaque volonté musicale, tout ça. Et ce qui est très drôle, c'est que avant de jouer, avant chaque concert, elle me disait « Maintenant, tu oublies tout ce qu'on a dit. » Et c'est une phrase que je ne comprenais pas forcément à l'époque et qui est pourtant tellement vraie. Oublier ce qu'on a dit, c'est-à-dire oublier ce qu'on a appris.
Ça fait penser à ce que Miles Davis avait dit à, je crois, John McLaughlin sur les séances de In a Silent Way. Il lui avait dit bah, « Joue comme si tu ne savais pas jouer. »
Ah ouais, c'est très beau. Exactement. Voilà. Pour cet esprit de découverte et pour ne pas être dans un savoir-faire, pour ne pas toujours refaire les choses qui peuvent après devenir de l'affectation ou un peu de la minauderie, enfin bon, bref.
Et comment on y arrive justement à retrouver cette sorte de virginité, et notamment pour cet enregistrement de Tchaïkovski, c'est-à-dire effectivement la phrase est belle, veut dire plein de choses, mais quand on est devant les micros, il faut y arriver. Ouais, qu'est-ce qui vous a aidé? Quelle a été la difficulté? Est-ce que finalement ça s'est fait très facilement, très rapidement?
Ça, c'est pas forcément facilement, mais c'est en tout cas quelque chose à ne pas perdre de vue, c'est... il ne s'agit pas de refaire ce qu'on a fait ou de démontrer quelque chose. Il s'agit d'essayer, et je ne dis pas que c'est facile, mais de chanter le plus naturellement possible. Faire de la musique, c'est chanter. Voilà. Il faut chanter à tue-tête ou pas, mais s'exprimer, quand je dis chanter, c'est-à-dire vraiment s'exprimer en transcendant l'instrument et en étant le plus vierge possible de tradition ou de fausses choses qu'on peut avoir emmagasinées, et il faut essayer de redécouvrir les choses à chaque fois. C'est comme ça que j'envisage en tout cas la manière dont je joue du violon et dont je fais de la musique.
Ce concerto de Tchaïkovski, question qu'on a toujours tenté de poser, vous avez quelques versions de chevet, de prédilection
Ah oui, j'en ai écouté beaucoup dans ma vie, mais récemment, non, pas. Moi, j'en reviens toujours à Yasha Heifetz. Je suis un peu monomaniaque. C'est vraiment. Je trouve que c'est le violoniste. Insurpassable, c'est pas ça, c'est qu'il est vraiment dans son univers et que voilà, et donc on va parler sûrement de grands violonistes du passé, parce que et c'est ce qu'il y a de très beau avec ces violonistes, c'est que on a l'impression qu'ils ne cherchent rien à démontrer, et ils ont une personnalité et une identité sonore très forte, que ce soit Heifetz ou Kreisler ou Jacques Thibault, ou parce que vous m'avez demandé d'apporter une playlist.
Tout à fait.
Donc, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Donc, le concerto de Tchaïkovski, ouais, j'ai une vision, moi, d'un film avec Fritz Reiner qui dirige et Yasha Heifetz qui joue ce concerto. Fritz Reiner, comme ça, avec cette tronche incroyable, une espèce d'oiseau de proie, comme ça, avec le regard noir, et qui dirigeait avec son index, comme ça, et qui fascinait ses musiciens, et ce qui sortait du son d'orchestre, c'était une bombe, alors que lui était dans une concentration de moyens et une force étonnante. Et de voir ces deux monstres comme ça jouer, c'était dans un film, je crois que ça s'appelle They Shall Have Music, hein, ou peut-être un autre, enfin un espèce de nanar hollywoodien des années 50 ou 40, je crois que c'est Yasha Heifetz qui veut sauver une école de musique en faisant un concert, enfin je ne sais plus, l'histoire est improbable et pas très intéressante, c'est juste le prétexte de le voir jouer.
Le voir.
Voilà.
Mais pour revenir justement sur cette visualisation de la musique, c'est dans le livret de l'album, vous faites justement un parallèle entre le deuxième mouvement du concerto de Korngold et la fameuse scène de la barque de la nuit du chasseur. Donc c'est vrai que ça vous colle en permanence et vous avez tout le temps...
C'est vrai, cette atmosphère un peu comme ça, lunaire, très étrange, avec ces animaux... cette pleine lune qui fait que les choses ont des ombres, enfin sont effrayantes, on a une perception différente de... Et il y a quelque chose dans cette musique qui notamment dans le passage à la fin avec la sourdine dans le deuxième mouvement du concerto de Korngold, qui m'évoque ça, dans une étrangeté, une... Ouais.
Vous avez dit tout à l'heure, quand en parlant du Korngold, vous semblez intouchable, que finalement vous aviez quand même quelque chose à dire. Avoir quelque chose à dire, c'est quelque chose, mais en général, c'est quelque chose qui est arrivé à quel moment pour vous dans votre carrière, de votre apprentissage du violon ? C'est pas juste être un élève qui apprend son instrument,
ouais,
etc. Est-ce qu'il y a un matin vous êtes réveillé comme ça, ou est-ce que ça s'est fait progressivement ?
Je sais pas si un matin, non, ça ne s'est pas passé comme ça, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que de plus en plus, les choses sont assez claires pour moi, et il me semble avoir des choses à dire.
C'est récent d'une certaine manière ?
Oui, quelque part, ouais. Mmh. C'est récent, et en même temps, je ne souhaite pas en être trop conscient, parce que autant que cela reste naturel et pas fabriqué. Mais je m'exprime, il me semble, de plus en plus librement avec mon violon.
Qu'est-ce que ça veut
dire ? J'aimerais bien que dans la vie ce soit comme ça pour dans tous les domaines de la vie, mais avec mon violon ça va. C'est un moment où je n'ai pas de doute et où ça va, tout va bien. Alors, il y a d'autres compartiments de la vie où c'est pas mal aussi.
On va rester juste sur l'aspect le compartiment musical. Qu'est-ce qui vous aide justement à vous à trouver ce un peu de bien-être? Est-ce que c'est lié à des enregistrements, à des rencontres musicales, à des répertoires que vous avez abordés ou délaissés? Qu'est-ce qui...
Oh, à beaucoup de choses, hein. C'est lié, j'ai quand même eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont beaucoup donné. Et alors, est-ce que j'ai compris tout de suite ce qu'ils m'ont donné? Je n'en suis pas certain, parce que je suis quelqu'un d'assez lent. Mais tout ça, je pense, m'a nourri et me revient, et c'est quelque chose qui est dans ma mémoire et dans mon conscient, j'allais dire mon inconscient, non, je suis très conscient de ce que j'ai reçu et de la chance que j'ai eue de recevoir beaucoup. Voilà. Ensuite, je pense qu'aussi les épreuves de la vie font qu'on change et qu'on voilà. Alors sans tomber dans le panneau, je pense qu'il y a d'un artiste qui souffrirait ou qui passerait par des épreuves. Je pense que certaines épreuves de la vie font que on sent les choses plus, on sent la corde. Et on a absolument besoin pour s'exprimer, si on veut avoir quelque chose à dire, de sentir la corde, de sentir ça.
Est-ce que justement le fait que vous êtes un des rares violonistes, on pourrait dire, assez médiatisé, on a parlé tout à l'heure un peu de toute la mythologie, effectivement, du violon, on a parlé de décennies un peu lointaines, mais effectivement d'une autre ère, vous avez fait des albums effectivement qui vous ont permis de toucher des publics un peu autres que la sphère classique, etc. Est-ce que vous avez, pas surmédiatisation, mais médiatisation, on peut dire supérieure à d'autres confrères ou collègues, a eu un impact sur tout ce que vous venez de décrire d'une certaine manière?
Oh, je sais pas. Moi, j'ai l'impression de n'avoir, que tout ce qui m'est arrivé est arrivé malgré moi.
On les a forcés.
Non, c'est pas qu'on m'a forcé. C'est que je n'ai jamais voulu grand chose. Ça veut pas du tout dire que je refuse les choses, mais je n'ai jamais suscité finalement beaucoup de choses, et les choses sont un peu arrivées malgré moi. Ouais.
Vous êtes laissé bercer finalement par le flow un petit peu, même si vous avez approuvé et voulu chaque projet au disque, sur scène, etc. Est-ce que
dans les projets au disque, je les ai souvent voulu. Mon premier disque, je voulais absolument que ce soit les sonates d'Isaïe. Ensuite, je voulais absolument faire les sonates de Bartok. Non, c'est vrai que j'ai fait des programmes un peu plus. C'est-à-dire, je suis assez curieux et j'ai aimé rencontrer des gens avec qui j'avais envie de faire de la musique, comme dans les disques comme Double Jeu, par exemple, où j'ai croisé Florine Niculescu, ou le petit Nemanja, qui est devenu grand, ou Tatiana Vassilieva, j'ai aimé faire des projets un peu différents, que je ne renie pas.
C'est d'ailleurs, oui, y a pas, sans les renier, c'est vrai qu'il y a surtout une partie parfois du... la critique ou du public qui n'aime pas en général.
Mais ça a pu être mal compris, mais si vous voulez, moi je fais les choses à fond et j'aime bien m'engager dans ce que je fais, et alors effectivement je fais pas les choses à moitié, et je peux partir dans des directions qui peuvent dérouter les gens parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il fait Corsia, il joue de
il passe de Bartok et après il se retrouve avec Jean-Louis Aubert, et en général les gens aiment pas trop ça.
Voilà, c'est ça.
Enfin, certaines personnes n'aiment pas
mais,
trop
ça, mais pour moi c'était naturel, c'était évident, je referais la même chose, et voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce genre de projet, donc je l'ai fait au moment où je l'ai fait.
Comment vous choisissez les œuvres, le répertoire que vous voulez enregistrer, pas vous jouer en concert, mais vraiment gravé dans la cire? Comment se fait parce que c'est vrai, quand on regarde votre discographie assez éclectique, Chausson, Bartok, Korngold ou autre, est-ce que pour vous donnez une valeur particulière à l'enregistrement, ou c'est juste un instantané, voilà, c'est la photo de vous à tel jour, à telle heure, et puis on verra la semaine prochaine?
C'est marrant que dans les locaux de Cobuz, vous parliez de graver dans la cire.
Voilà, c'est pour ça.
Un enregistrement.
La cire virtuelle.
Mais ouais, la cire virtuelle. Mais écoutez,
c'est gravé dans le disque dur.
Ouais, mais on a quand même une vieille envie de laisser une trace. Même si on s'en défend. Oui. Et ces enregistrements-là, de Korngold ou de Bartok ou d'Isaïe, je pense qu'ils resteront. C'est pas du tout prétentieux de dire ça. C'est que je pense qu'ils ont été faits avec tellement de passion et de sincérité qu'ils resteront. Il restera quelque chose de ça, je crois. Mais bon, c'est pas quelque chose qui fait que je m'en énorgueille ou que je m'en rengorge.
Et le choix? C'est-à-dire que...
Alors le choix.
Pourquoi, comment ça se fait? Est-ce que vous avez dans votre tête, vous dites, voilà, celui-là, j'aimerais enregistrer, on verra. Bon, là, Tchaïkovski est arrivé à ce moment-là de votre carrière, de votre vie, de votre discographie. Ou finalement, ça se fait au fil du temps, parfois des rencontres, parce que tel producteur ou tel musicien ou tel orchestre va... Comment ça...
Ah oui, ça se fait au fil du temps, parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer... à me projeter en avant comme ça. Donc là, ce concerto de Tchaïkovski, bon, c'est quand même un rêve de violoniste d'enregistrer ce concerto. Je vous disais, c'est le premier concerto que j'ai joué avec orchestre. C'est quand j'étais enfant, j'avais ce disque de David Oistrakh avec Ormandie, et j'avais 10 ans. J'étais dans ma chambre, je dirigeais l'orchestre comme ça. Pour moi, c'était une musique qui racontait des histoires, hein, encore une fois. Et oui, le gravé, comme vous disiez, c'est important pour moi. Et le concerto de Korngold, c'était vraiment aussi... j'ai vraiment une... comment dire, pour cet homme, pour le destin de cet homme qui a eu une vie très difficile, j'ai beaucoup de fraternité pour lui. Et je pense qu'on l'a pas trahi. Et ça, c'est le plus grand compliment que je puisse me faire. C'est de me dire que alors c'est très subjectif pourquoi je peux me permettre de dire ça, mais je suis assez convaincu que je ne l'ai pas trahi. Et pour moi, c'est un
bel accomplissement.
Voilà, exactement.
C'est Jean-Michel Molcou dans sa critique dans Le Nouveau Diapason qui a carrément dit que votre version était la plus inventive depuis Haïfet. Donc évidemment, quand on reçoit ce genre de laurier, ça, j'imagine que...
Oui, ça m'a fait très plaisir.
Ça touche. Comme on dit. Ah, vous parliez dans votre chambre en train de diriger, non pas des pluches, mais en mettant le disque. Est-ce que dans votre chambre, il y avait des... parce que vous n'étiez pas spécialement à la base, je crois que le violon, vous n'avez pas eu une révélation, vous n'aviez pas vu la Vierge, vous n'étiez pas dès le berceau, je veux être violoniste. Je crois que c'est plutôt la guitare qui vous attirait. Est-ce que malgré tout, vous aviez effectivement des idoles quand vous étiez très jeune? Est-ce qu'il y avait des posters, je ne sais pas, moi, de Menuhin ou de Haïfet dans votre chambre?
Ah oui, moi, mes idoles, c'était Haïfet et Menuhin. Ouais. Les deux personnes que j'aimais par-dessus tout, c'était ces deux violonistes. Et c'est toujours le cas.
Ça n'a pas changé.
Ouais. J'évolue pas beaucoup. Non, mais il y a beaucoup de raisons pour cela. Et ce sont des violonistes qui traversent le temps.
C'est forcément le but, traverser le temps. Qui est un temps en plus assez court finalement, celui de la musique enregistrée.
C'est pas le but pour celui qui le fait, mais pour celui qui se rend compte de ça, c'est quand même fascinant de voir que ces violonistes ont traversé le temps de cette manière et que leur message est aujourd'hui toujours moderne dans le sens où il est actuel, et ça n'est pas daté. Oui, c'est important de traverser le temps. Il y a tellement de choses qui sont éphémères, qui sont des effets de mode, qui sont des poses, des postures. Il y a beaucoup d'impostures dans le monde de la musique classique, comme dans beaucoup de monde d'ailleurs, mais pas mal d'impostures. Et ce ne sont pas des imposteurs, ceux-là.
Thank you.
Il y a deux noms que vous avez cités tout à l'heure, hein, en parlant de toutes les rencontres que vous avez faites, c'est celui de Michel Auclert et de Pierre Barbizet.
Oui.
Alors, je vais vous demander un peu de ce que ces deux noms vous... une sorte de souvenir ou de choses qui vous restent à travers le temps. Alors, vous avez cité une belle, belle phrase de Michel Auclert. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui, voilà, avec ces, ces instants majeurs de début de votre vie de musicien?
Alors, ce que je garde et qui est très précieux et qui est tellement rare et qui peut s'accorder aussi bien à Pierre qu'à Michel, c'était cette générosité. La générosité et le désir de transmettre et le désir de partager et voilà. Je crois que c'est Olivier Messiaen qui disait le comble de la pédagogie, c'est d'accepter que votre élève vous dépasse. Et je me souviens, Michel Auclert un jour m'avait dit tu sais Laurent, tu joues bien mieux que je n'ai jamais joué. Et j'étais est terriblement embarrassé par cette phrase parce que je trouvais qu'elle n'était pas juste, je ne la comprenais pas et j'étais pas d'accord. Et mais bon, au-delà de ça, ça veut vraiment dire un professeur qui n'a pas qui a cette générosité de transmettre les clés pour que quelqu'un le dépasse. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on ne garde pas des choses dans son escarcelle, il n'y a pas de parcimonie dans le fait de donner, il n'y a que de la générosité. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est quelque chose dont je me souviens toujours. Un émerveillement pour la musique, une générosité. Et vraiment, plus on donne, plus on a envie de donner. Et plus on aime, plus on a envie d'aimer. Je pense que... Moi, souvent, je me suis confronté à des partenaires en concert avec qui ça s'est mal passé. Alors peut-être qu'on peut dire Corset, il a un sale caractère, il peut se fâcher avec des gens, mais je vais vous dire pourquoi. Je ne supporte pas la parcimonie. Quoi. J'aime que les gens s'engagent véritablement dans ce qu'ils font. Et moi, j'ai entendu des partenaires me dire à une répétition... à jouer du bout des doigts en me disant non mais on se garde pour le concert, on donne pas tout. Il y a rien qui m'exaspère plus que ça, parce que on sait jamais, on peut crever entre la répétition et le concert, autant faire une belle répétition. Et je trouve que c'est ça symbolise quelque chose qui est dans l'ordre du calcul, et ça me gêne terriblement. Et je pense qu'on fait beaucoup de la musique comme ça aujourd'hui. C'est comme des chefs d'orchestre avec qui j'ai joué, qui font des effets d'estrade, qui jouent de profil pour que le public les voie, et qui font des effets de mèche, tout ça. Et alors qu'à la répétition, ils étaient hyper ennuyeux, ils battaient mollement leurs poignets en pensant à autre chose. Et donc, ce manque d'engagement, ce manque de sincérité me gêne, et voilà, c'est ce qu'il n'y avait pas chez ces gens-là de cette génération, c'est le sens du partage. Une forme de sincérité et vraiment d'amour et de enfin ça a l'air très neuneux ce que je dis, mais c'est pas neuneux du tout, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et c'est comme ça qu'ils étaient.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une petite part en vous, même si vous êtes heureux d'être là en 2011, qui aurait bien aimé effectivement avoir la machine à remonter le temps et vivre toutes ces décennies antérieures où les musiciens, les maîtres étaient autres et là...
Ah oui, c'était vraiment l'âge d'or de l'interprétation et puis du rapport entre les musiciens. Maintenant, cette génération correspond à tellement de drames, voilà. qui sont passés que effectivement c'est difficile de dire qu'on aimerait remonter la machine. Mais je sais pas, je trouve qu'il y avait quelque chose de très sincère dans l'expression de la musique à cette époque.
Alors ce mot de sincérité, vous l'avez prononcé quand vous avez parlé de votre, je sais pas si vous dire éclectisme, ouverture d'esprit, etc., que certains vous ont reproché, vous reprochent. Cette ouverture, c'est quelque chose que vous aviez en vous depuis toujours? Est-ce que petit, musicalement, vos oreilles ont toujours été à 360 degrés? Est-ce que ça s'est fait progressivement? Et d'où ça vous vient?
Ouais, j'ai toujours aimé beaucoup de musiques différentes, et toujours aujourd'hui, mais je sais pas d'où ça vient. Ça vient d'une... ça vient de... on va avoir l'impression que je ne parle que de sincérité, mais pourtant c'est vrai. Je trouve que, si vous voulez, il y a un malentendu parfois avec la musique classique. On a l'impression que, parce que les musiciens classiques jouissent d'une espèce de respect ou d'aura parce qu'ils ont affaire à des grands compositeurs. Mais on peut massacrer des grands compositeurs et on peut, vous parliez de Miles Davis tout à l'heure, ou de la Fitzgerald ou Stéphane Grappelli avec une phrase très simple à voir, mais ça c'est très évident ce que je vais dire, mais c'est quand même important de le dire par rapport à cette hiérarchie qu'on fait entre la musique classique et d'autres musiques. Donc à partir du moment où il y a sincérité et engagement, c'est pas que toutes les musiques se valent, mais tout m'intéresse et je suis très sensible aux interprètes. Pour moi, une œuvre de musique ne devient vivante que dans la rencontre avec un interprète. Il y a des œuvres que je vais trouver absolument ennuyeuses et inécoutables, et la même œuvre jouée différemment va devenir essentielle et indispensable. Donc voilà, je suis touché par les interprètes, quels qu'ils soient. Ça peut être un joueur de flûte indienne, ça peut être beaucoup de choses, voilà.
Renette Loranaise, je crois que c'était une...
Renette Loranaise.
C'est la cousine de votre grand-père, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est ça. C'est une femme qui avait une voix extraordinaire et que j'ai beaucoup écoutée, oui, enfant.
Vous avez envie de quoi aujourd'hui, musicalement? Vous avez dit tout à l'heure que finalement, vous sentir finalement assez libre et que c'était quelque chose d'assez récent, alors c'est... Ces ailes un peu qui vous poussent, vous donnent. Est-ce que vous avez une sorte de gloutonnerie, d'envie de projet, après que ça se réalise ou pas, c'est une autre histoire. Mais est-ce que comme ça, vous êtes comme ça? Bon, ce disque Korngold Tchaïkovski sort, donc êtes-vous frais? Mais est-ce que vous avez déjà plein dans votre tête? Fume de partout.
J'ai pas mal d'envie d'enregistrement et d'œuvres que je veux jouer. Ouais.
Alors c'est quoi ces envies?
On n'en parle pas. C'est le meilleur moyen que ça n'arrive pas, c'est d'en parler trop.
Aucune piste, rien du tout. Une collaboration, je sais pas, des choses qui vous...
On va voir.
C'est trop, trop confidentiel et trop touchy. Quel mélomane vous êtes? Vous avez parlé, donc arrêtez d'en parler, de curiosité, d'ouverture d'esprit. Vous écoutez beaucoup de musique. Est-ce que vous achetez beaucoup de disques, vous téléchargez beaucoup, vous allez au concert? Dès que vous entendez un nom, vous courez pour savoir ce que c'est. Et quel rapport vous avez avec la musique enregistrée? Comment d'ailleurs ce rapport était quand vous étiez jeune, étudiant, etc. Et comment il est aujourd'hui?
Quand j'étais plus jeune, j'achetais beaucoup de disques, j'allais beaucoup au concert. Je suis allé beaucoup au concert pendant très longtemps. Là, j'y vais un peu moins, je dois dire. Parce que quand même, 95 fois sur 100, sans reprendre la chanson de Georges Brassens, on s'ennuie un peu au concert. Vous trouvez pas? Non, bref, c'est moi qui le pense. Mais bon, pour trouver une perle, il faut écouter sans choses pas très intéressantes, mais c'était quoi votre question?
Est-ce que vous êtes un glouton de musique beaucoup aujourd'hui? Est-ce que vous écoutez beaucoup de choses? Est-ce que vous, dès qu'il y a des nouveaux noms qui circulent, est-ce que vous avez envie de savoir ce que c'est, ou vous laissez bercer quand des amis vous disent tiens, est-ce que t'as écouté ci, t'as écouté ça, ou est-ce que vous avez des phases finalement?
Oui, j'ai des phases où j'écoute, où je suis un peu monomaniaque sur tel répertoire. Là, j'étais sur La ville morte de Korngold pendant des semaines parce que je trouve cette œuvre absolument géniale. Ça peut être la symphonie de Bruckner, ça peut être. C'est par période. Mais je ne suis pas vraiment avide d'aller au concert et de tout voir, tout entendre, non. Je connais tellement de choses que je préfère les entendre à mon rythme. Voilà. Mais oui, j'aime bien découvrir des choses.
Alors, vous nous avez amené une petite playlist de 4 ou 5 pièces qui vous tiennent à cœur. Alors qu'on vous avait demandé évidemment d'axer ça sur le violon, tant qu'à faire.
Ouais.
Alors, quels sont vos choix? Parlez-nous un peu de ces choix.
Alors, on va rester dans la légende du violon. La légende du violon, dont a si bien parlé d'ailleurs, je voudrais en profiter pour en parler de ce livre de Jean-Michel Molcou. Qui sait très bien faire revivre et faire perdurer cette grande histoire, cette grande légende qui intéresse les violonistes, mais à quel point est-ce accessible et est-ce possible de faire comprendre cela à toutes ces subtilités, tous ces violonistes qui sont tellement différents, il y en a eu tellement au XXe siècle, et je trouve qu'il a une manière de voir ça, de les croquer, on va dire, et de d'en tirer une essence qui est très touchante et très importante pour la transmission encore. Alors il y a Fritz Kreisler, c'est moi je dis toujours Fritz Kreisler, c'est un violoniste qui vous réconcilie avec le genre humain, c'est-à-dire il y a tellement de simplicité, de beauté, de charme et de naturel dans son jeu. Pour moi, c'est un peu le Georges Brassens des violonistes. Il a quelque chose d'évident. Donc, j'ai choisi une pièce qui s'appelle Alt Wien.
Deuxième choix, donc, celui dont on a prononcé le plus de fois le nom, je pense, pendant cet entretien, Heifetz.
Ah ouais, Yasha Heifetz. Là, alors, on va écouter un bout des airs bohémiens de Sarrasate. Le passage, un passage assez lent, avec la sourdine. Et même dans ce passage très lent, très méditatif, on entend une urgence et une colère presque dans le son de ce violoniste, dans ce vibrato incisif et dans cette prise de son qui est presque en 3D quelque part, elle est en relief. Il y a quelque chose dans sa manière d'attaquer la corde avec son archet qui ne vous lâche pas. Donc je pense que quelqu'un qui n'aimerait pas le violon, on lui fait écouter ça et puis je pense qu'il changera d'avis.
Troisième choix, Laurent Corsia, de votre playlist, Jacques Thibault.
Ah ouais, alors Jacques Thibault, c'était le professeur de Michel Auclair. Et c'était une des plus belles sonorités de violon que j'ai jamais entendue. Et que même malgré un enregistrement assez limité, enfin c'était les années, je sais pas, 40 ans. Peut-être avant même, on entend cette beauté implacable du son, une plastique sonore qui est unique et un naturel encore une fois. Et on a vraiment l'impression qu'il joue du violon comme s'il chantait.
Thank you.
choix numéro 4 de votre playlist, Laurent Corsia. Un tandem magique, Yehudi Menuhin,
ah oui,
Stéphane Grappelli.
Et pas mal de tandems. C'est Yehudi Menuhin et Stéphane Grappelli qui se sont bien trouvés, ces deux-là. Ils se sont rencontrés et ils ont joué pas mal de morceaux, dont notamment celui-ci qui s'appelle Jalousie. Alors on entend un petit peu Yehudi qui rame derrière parce que on sent qu'il y va avec tout son petit cœur et qu'il veut faire le mieux, mais ça suffit déjà, c'est déjà beau en soi. Et alors il y a le Stéphane qui à peine il pose l'archet sur la corde, c'est le sourire qui vient forcément quand on l'écoute. Il nous force à sourire.
Dernier morceau de votre playlist, Laurent Corsia, Ivry Gitlis, aux prises avec le concerto de Sibelius.
Ah oui, alors Ivry Gitlis, c'est la flamboyance, c'est l'audace, là où son archer passe, l'herbe ne repousse pas. Et il y a quelque chose de... Il est magique. Il est absolument, il est incandescent, virulent, il est grand.
Thank you.
bien voilà, donc cette playlist sera téléchargeable sur Qobuz. Donc je rappelle, Laurent Corsier, que votre album Tchaïkovski et Korn Gold vient de sortir chez Naïve. Merci beaucoup.
Merci.
Qobuz.com. Rencontre par Marc Zisman.